Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais parler de l'espérance de la gloire à venir. Et vous savez que Vernia nous avait parlé de Lazare et cette notion de après Pâques, de sortir de nos tombeaux, de sortir de nos cavernes, de sortir de nos tombeaux. Et puis Anne nous a parlé la semaine dernière de voilà considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur Jésus, hein, considérez-le. Et puis elle parlait de Jésus au milieu des menorahs, au milieu des chandeliers. Chaque église c'est un chandelier d'or ciselé. Et quelque chose dans ce travail d'orfèvre, il symbolisait l'amandier. Et l'amandier, ça nous parle d'un jour nouveau aussi, de printemps. C'est le premier arbre fruitier qui annonce le printemps. Donc que ça soit Lazare sort des tombeaux, ça parle de résurrection, d'une nouvelle saison, et que ça soit ce message d'Anne avec le chandelier qui parle déjà d'un monde nouveau, eh bien aujourd'hui on va aller un peu plus loin dans ce même climat de résurrection. Romains 8, versets 18 et suivants. Un passage bien connu, mais qu'on va reprendre. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas pour elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Et ainsi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc là, j'aimerais commencer par deux anecdotes qui étaient assez connues. Il y en a une qui a fait l'objet d'un film il y a quelques années. La première, c'est l'histoire d'un randonneur. En 2003, il s'appelle Aaron Ralston et il était dans le canyon de l'Utah et il s'est écrasé sous un rocher. Il ne pouvait plus sortir et il était seul. Ça a duré plusieurs jours et donc c'était un combat entre la vie et la mort. Il ne pouvait pas sortir. Personne ne savait où il était. Donc il y a un moment... Il s'est dit, il a réalisé quoi, là, il fallait faire quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il a une vision du futur, hein, un rêve, une projection. Et il s'est imaginé le moment où il aurait un enfant. C'est un jeune homme, hein, le moment où il aura un enfant. Et ça l'a déterminé, et c'est assez horrible, il s'est amputé lui-même le bras. Il est sorti du canyon, il a pu vivre et réaliser le rêve qu'il avait. Donc, la force d'une vision, la force d'une vision qu'il a, lui a donné de traverser le passage. Et puis, un deuxième élément, c'est une nageuse qui s'appelait Florence Chadwick. Et donc, son histoire est souvent racontée parce qu'elle inspire beaucoup. C'était en 1952. Elle tente de relier l'île de Catalina, donc la côte californienne, à la nage. Et elle fait 16 heures de nage dans l'eau, donc, et elle est épuisée. Et le problème, c'est qu'il y avait un épais brouillard. Donc elle ne voyait pas la rive, le bout. Et donc, à un moment, elle n'en pouvait plus. Elle a abandonné. Et donc, elle a été reprise parce qu'il y a des bateaux qui la suivaient. Donc elle a été repêchée. Et c'est là qu'elle découvre qu'elle était qu'à 1 kilomètre du rivage. Et elle a dit ceci, « Tout ce que je voyais, c'était le brouillard. Et je pense que si j'avais pu voir le rivage, j'aurais réussi. Si j'avais pu voir le rivage. » Et Dieu nous dit, « Regarde le but. Regarde le but. Est-ce que tu vois le but aujourd'hui ?» Le but de ta vie, le but de l'histoire. Parce que c'est ça qui fait qu'on passe au travers de tout ce qui peut nous passer, nous arriver. Et vous savez, c'est parce qu'on ne voit pas le but qu'on s'arrête. Et dans ce temps entre Pâques et la Pentecôte, Dieu voudrait que personne n'arrête la marche et qu'on voit le but. Alors, on le voit, donc j'estime, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Notre vision du futur détermine nos choix et nos actions du présent. Ça, c'est très important. Donc, cette histoire, ces deux histoires illustrent l'importance de voir le but, de voir le rivage. Et ça, cette vision du but nous encourage, nous nourrit, nous énergise dans notre marche et donne un sens, une compréhension de notre présent. Il y avait un exemple dans un cabinet d'avocats à Chicago, j'ai vu un truc étonnant. Alors, ils veulent faire de l'argent, hein, les avocats. Donc, ils avaient mis une grande pancarte. La vie est courte, obtenez un divorce. Tu vois, c'était le truc, la vie est courte, il faut en profiter, donc change de femme, divorce. Et ça, c'était vraiment l'affiche. Il y a une parole biblique qui nous dit, 1 Corinthiens 15, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc vous voyez, la vision de l'avenir, demain je meurs, il n'y a plus rien, donc basta. Et tu comprenais, c'est directement lié. Donc aujourd'hui, quelle est ta vision de l'avenir? Quelle est ta vision du futur? Pour toi, pour ta famille, pour le monde. Ça, c'est déterminant. Et l'ennemi, il enlève cette vision parce qu'il veut t'arrêter. Donc Dieu veut réactiver. Le futur est une part importante de notre foi et de nos vies. Parce que lorsque nous voyons clairement le futur, ça parle de vision. Hein, ça nous aide non seulement à passer au travers, à transcender nos circonstances, ça c'est l'espoir, l'espérance chrétienne, mais ça détermine aussi la manière dont on va vivre notre présent, nos objectifs, nos choix. Donc vous voyez, tellement important, et dans toutes les écritures, il y a vraiment cette insistance sur là où nous allons. Donc les souffrances du temps présent, souffrances du temps présent. Mes amis, qui sait qui ne fait pas l'expérience des souffrances du temps présent? Alors il y a des souffrances qui sont le fruit de nos bêtises, hein, de nos choix. Il y a des souffrances, voilà, d'irresponsabilité, d'immaturité, il y a tout ça. Il y a des souffrances qu'on n'a pas choisies non plus. Voilà, il y a toutes sortes de souffrances, mais toutes ces souffrances, c'est rien comparé à la gloire à venir. Alors j'aimerais qu'on commence à... Je ne sais pas où en sont tes souffrances aujourd'hui, mais la souffrance n'est pas une finalité. Et Paul, il la voit, il voit la souffrance dans la perspective du rivage, dans la perspective de la finalité. Donc la vision de la gloire à venir nourrit notre foi. Une culture de foi qui nous fait absorber le quotidien sans être abattu, avec une vision qui nous fait passer au travers. Cette gloire à venir, c'est ce que Dieu a préparé pour nous. Donc la souffrance, la tribulation ne doit pas être vue comme une fin. C'est pas la fin. Vois au-delà. Comme la parole qui a été dite, regarde, lève les yeux, regarde le but. Les disciples d'Emmaüs, ils étaient sans espoir, ils étaient tout perdus. Jésus arrive, paf, il ouvre leurs yeux. Les circonstances n'avaient pas changé. Mais ils ont vu différemment. Et l'espérance est venue, ça a changé toute leur vie. Donc, l'espérance qui est changée. Paul connaissait les souffrances du temps présent. On peut s'identifier à lui, rappelez-vous, hein, il est pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non au désespoir. Détresse, mais pas désespoir, hein, voyez. Persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Combien de fois lapidé, traité comme mort, etc. L'apôtre Paul, vraiment, on peut dire que la souffrance, il sait ce que c'est. Et donc, c'est lui qui écrit cela. La gloire à venir, c'est pas comparable. Donc, cette gloire, elle englobe toute la réalité. Elle englobe toute la création et elle englobe tout ce que nous sommes, nos vies. Elle englobe tout. Donc, la gloire pour la création. Juste un rappel, mais vous savez, cette création de Dieu qui est belle, qui est ordonnée. Quand vous lisez Genèse 1, 2, c'est l'ordre. Il y a trois mots peut-être qu'on peut retenir. La notion d'ordre, la notion de beauté, Et puis la notion aussi d'abondance. Voilà, ça c'est le départ. Et donc là-dedans, dans ce climat-là, Dieu a instauré le travail. Et le travail non pas pour nous peiner, mais le travail pour développer le potentiel que Dieu a pour nous. Ça s'appelle la vocation. Donc là encore, si tu n'as pas une vision du but, tu n'as pas une vision de la vocation, et donc tu subis tout. Tu subis tout. Et Dieu veut tout racheter. Donc ensuite, on connaît la chute, et puis cette création qui était faite pour louer Dieu, pour le célébrer, pour le révéler, a été touchée, marquée par le péché d'Adam. Et la rédemption, les Écritures ne s'arrêtent pas là, il y a une espérance, la terre espère, ça c'est intéressant, la terre espère. Je veux dire, nous sommes appelés à être le peuple de l'espérance. La terre espère, la matière, la création de Dieu, elle espère. Et donc, l'œuvre de Christ qu'on a célébrée maintenant, eh bien, elle est là pour réconcilier le salut de nos âmes, mais aussi de toute la création, on le dit souvent. C'est pourquoi nous, quand Anne nous a dit, considérez l'apôtre, le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il intercède pour nous. Et il est à la droite de Dieu, il a vaincu et il intercède. C'est quand même étonnant. Est-ce que ça, si tu contemples ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te mettre à intercéder. Vous voyez? Il y en a qui disent, mais ça sert à quoi? Dieu a tout prévu. De toute façon, mais Dieu intercède. Jésus n'est pas un fataliste, il sait le but, mais il intercède pour toi, pour nous. C'est impressionnant quand même. Il a tout fait. Il intercède comment? C'est pas des supplications, hein? Oh Seigneur, regarde comme ils sont malheureux, les pauvres. Non. J'ai tout accompli. J'ai tout fait. Et à cause de ça, je prie maintenant que ça soit débloque, que ça ressuscite, ça vive. Il prie sur la base de ce qu'il a fait. Donc il intercède pour nous. Tu contemples le grand sacrificateur, ça se met à intercéder. Tu contemples le grand apôtre, qu'est-ce qui passe? Tu rentres dans une mission apostolique. Tu te sais envoyé individuellement, corporativement. Ce que tu contemples, tu le deviens. Donc, nous sommes appelés à contempler et nous sommes appelés à bénir la terre. Et là, cet événement qu'on a vécu, c'est un événement où vous voyez des sacrificateurs qui connaissent le pouvoir de la bénédiction. Et puis je vous ai dit, il n'y a pas eu une seule parole de négative ou de détresse, c'était du positif, c'était aligné avec la parole de Dieu. Et nous avons la capacité de bénir les gens et de bénir la terre. Et ça, mes amis, c'est quand même un sacré rôle de sacrificateur. Dans Joël 2, on voit tous les prophètes, ils ont compris ça. Joël qui parle, il prie comme ça, il dit, terre. Donc il s'adresse à la terre. C'est quand la dernière fois que tu t'es adressé à la terre? Pour la bénir. Hein? Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse, réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Bête des champs, ne craignez pas. Les plaines du désert reverdiront. Les arbres prendront de fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Ça, c'est la sacrificature. Tu t'alignes avec ce que Dieu dit. Parce que Dieu a promis le renouvellement de toutes choses. Mais vous savez, ce renouvellement, il ne se fait pas... Comme ça, ça va tomber, Dieu l'a promis, donc il va le faire tout seul. Il le fait avec nous. Il le fait au travers de nous. Alors c'est un début, c'est pas la finalité. On est en processus, hein, mais il le fait avec nous. Et il a besoin que ces sacrificateurs commencent à dire la vérité, à bénir, à contribuer à ce renouvellement. Lorsque Jésus est ressuscité, c'est le premier acte du renouvellement de toute chose. Lorsque tu es né de nouveau, cette nouvelle création annonce la nouvelle création tout entière. Donc, ça commence par toi, ça commence par ton cœur. Mais vraiment, le Seigneur nous appelle à nous aligner avec ses prophètes. Et vous, enfants de Sion, ça c'est Joël qui continue. Vous voyez, terre, et ensuite, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, etc. Les années qu'on volait, la sauterelle, tout ça, eh bien, je vous les rendrai. Donc, alignement, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. On voit la puissance de la parole, de la sacrificature, et je pense à ces marches d'intercession que nous avions faites, et puis d'autres. Tout ça, ça contribue à la recréation du monde. Et donc, dans les Écritures, la notion de fin du monde n'existe pas. Dans les Écritures, il est question de la fin de l'ère, la saison. La traduction, c'est... Alors, les histoires de fin du monde, il faut arrêter avec ça. C'est pas la fin du monde. Il n'y a pas de fin du monde dans les Écritures. Nulle part. C'est la fin d'une ère et le commencement d'une nouvelle ère. Le siècle présent a été chamboulé à la résurrection par l'irruption de l'âge à venir, le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu qui est venu au travers de Jésus, il est là au milieu de nous. Alors bien sûr qu'on vit entre deux temps, un royaume qui n'est pas encore complètement là, bien sûr, mais un royaume qui est déjà là. Et donc nous n'allons pas vers la fin du monde. Nous n'allons pas vers la fin du monde. Nous allons vers le renouvellement de toutes choses. Et vous savez, ce pessimisme dans l'eschatologie chrétienne, ce pessimisme paralyse l'action. Paralyse l'action, brise les rêves, empêche d'agir, empêche d'être pertinent. Nous n'allons pas vers la fin du monde, nous allons vers le renouvellement de toutes choses. Et Dieu qui a renouvelé ton cœur, c'est le signe que sa puissance de renouvellement, elle a commencé là et elle continuera jusqu'au bout. Donc, coup de pied à toute notre imaginerie mentale, aux enseignements parfois bibliques qui ont conduit au découragement, qui ont conduit à vouloir nous échapper. Je discutais avec quelqu'un, cette doctrine d'échapper, elle est née au 19e siècle, avec Darby. Pendant 19 siècles, l'histoire de l'Église n'a jamais parlé d'enlèvement quelconque. Ça, c'est, bon, c'est pas grave si on y croit, mais je veux dire, 19 siècles où on croit qu'on est responsable, que la terre soit renouvelée, et qu'on a notre responsabilité. Et ça, c'est vraiment la foi. Et dans les héros de la foi, dans Hébreux 11, 8 à 10, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Et regardez ça. Car il attendait. Pourquoi il marchait? Parce qu'il attendait. La vision. Il attendait la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Pourquoi Abraham marchait? Parce qu'il a vu quelque chose. Alors, bien sûr, Dieu lui a promis la terre promise. Il est rentré, il a marché. Mais à la fin de sa vie, imaginez les statistiques aujourd'hui, les statisticiens, hein, ceux qui évaluent les résultats. Abraham, ben, il n'a rien possédé. À la fin de sa vie, il avait juste une possession, un tombeau dans la terre promise. C'est la seule chose qu'il avait. Et les gens pourraient dire, pour un appel de Dieu pour ta vie, mon ami, ça, les fruits, hein, sont pas là, hein. Ils sont pas là, il y a juste un tombeau que tu possèdes. Et tu parles de promesses de Dieu et de multiplier, de prendre de possession d'une terre et tout ça. Il y a rien. Et pourtant, Abraham est le héros, le père de la foi. Attention à nos cultures qui comptent, qui comptabilisent, qui évaluent, qui rend la rentabilité. Ça, c'est fini ça. Et on voit ici Abraham, il a vu la cité. Et donc, dans Hébreux 11, ensuite un peu plus loin, versets 13 à 16, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, il parle de ces héros de la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Waouh, c'est dur ça quand même, hein. C'est dur. Sans avoir obtenu les choses. Mais ils les ont vus et salués, c'est ça qui est important, ils les ont vus. Ils les ont vus, salués de loin. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient partis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant qu'ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc cette notion de cité, c'est quand même intéressant. Elle revient plusieurs fois. C'est quoi cette cité? Donc il nous parle d'une cité. Jean, dans l'évangile de Jean, les disciples parlent à Jésus et Jésus leur dit, eh ben voilà, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez aussi. Donc il est question d'une place. Là, il est question d'une cité. Ces deux textes nous parlent de communion avec Dieu, la finalité de tout, communion avec Dieu. Mais c'est une cité et c'est pas un jardin. On aurait pu penser que ce jardin au départ, où il y avait l'harmonie avec Dieu, l'harmonie les uns avec les autres, l'harmonie avec la création, eh bien que Dieu allait restaurer tout ça, que c'est de nouveau un jardin. Mais non, pas de nouveau un jardin, une ville. Alors ça, c'est intéressant. C'est, mais qu'est-ce qui se passe? Apocalypse 21, l'ange m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Donc, une ville qui descend. Alors aujourd'hui, on a un peu de mal à comprendre ça. Pourquoi? Parce que depuis le 19e siècle, les villes, c'est des lieux d'industrialisation, c'est des lieux de pollution, c'est des lieux de, vous voyez, parfois de violence et tout. Et donc, on a été imprégné de l'influence des romantiques qui, comme Rousseau, tout ça, ils disaient, ah, c'est super de vivre dans la nature, tu vois, de vivre dans la nature. Parce que là, on n'est pas corrompu par la culture, par la, donc la nature, on idolâtre la nature. Mais, à l'époque, la nature, c'était le monde sauvage, pas de sécurité. Il faut, tu risques ta vie sans arrêt. Donc, la ville était celle qui protégeait. Le mur, la muraille autour permet l'économie, permet le partage, permet la communion, permet de fructifier. Sans ville, tout ça, c'est... Donc, vous voyez, la notion de la ville, attention, comment on la voit aujourd'hui. En tout cas, ici, la cité céleste, la ville de Dieu, c'est, ça n'a rien à voir avec, vous voyez, ce pessimisme par rapport aux villes. Pour les anciens, la ville était un refuge contre le désert. C'était contre un désert qui environnant, contre un monde sauvage. C'était un jardin où il y avait de l'ordre, où il y avait de la beauté, de l'abondance. Voilà la ville. Et donc la vision de Jean, c'est pas le retour au jardin. C'est l'accomplissement de tout le potentiel de Dieu qui a commencé dans le jardin. Donc dans le jardin, qu'est-ce qu'on voit? L'ordre, la beauté, l'abondance. Dieu restaure tout ça. Mais il fait aller plus loin, parce qu'on voit que il parle d'une cité. Alors, vous savez, il y en a qui pensent que voilà, Dieu a fait toutes choses belles, le péché est venu, il faut tout recommencer. Allez, je me suis trompé, dirait Dieu, je me suis trompé, on recommence à zéro, on efface tout, on recommence. Il y en a qui pensent que c'est comme ça l'histoire. Mais c'est pas comme ça l'histoire. Dieu, on n'est pas dans un monde cyclique avec Dieu. On est dans un monde, une histoire linéaire. Il y a un début et ça croît jusqu'à une fin. Et donc l'idée que Dieu recommence tout, non, c'est pas ça. Imaginez un peintre, un maître peintre, qui fait une grande fresque. Il travaille sur une grande fresque avec des apprentis. Et puis il est là, et puis pour une raison ou pour une autre, il doit quitter. Il doit partir, il doit laisser en plan la fresque. Et les apprentis, qui méprisent un peu le maître, ils commencent à gribouiller dessus, ils commencent à mettre de la peinture comme ça, à faire de l'expression, voilà, sur le mur. Et bien sûr, le maître, quand il revient, il voit cette fresque, on pourrait dire, détruite, en se saccagée. Et ses apprentis auraient pensé qu'il va tout recommencer. Eh ben non! Eh ben non, il recommence pas tout. Il désespère pas. Il découvre, c'est une fiction, hein, mais il découvre une jointure, là, au bord de la fresque. Il commence à retirer une couche que les apprentis n'avaient pas remarquée. Et à mesure que ce voile se détache du mur, une partie de leur peinture à eux a été détruite, bien sûr. Mais il y a aussi une partie que eux avaient rajoutée qui est gardée. Et donc, il y a une partie qui demeure et qui est intégrée dans la composition, parce que lorsque le voile est déchiré, à l'étonnement de tous, la fresque achevée que le maître avait toujours envisagée est révélée. Donc c'est ça l'histoire, elle est révélée. Vous voyez, on n'est pas dans une histoire dont on efface tout, on recommence. On est là, il y a des choses qui demeurent. Ce qui demeure, c'est l'amour. Ce qui demeure, c'est l'espérance. Ce qui demeure, c'est la foi. Ça demeure. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui dans l'espérance, dans la foi, dans l'amour, est éternel et passe dans le monde éternel. Donc, vous voyez, Apocalypse, eh bien, ça, c'est la ville dévoilée qui représente le monde que Dieu a toujours voulu. Son plan n'a pas déraillé. Son sujet n'a pas été détruit. Il ne recommence pas à zéro. Au contraire, on découvre que Dieu a triomphé, que son objectif n'a pas été empêché, malgré les tentatives du mal. Et alors, Jean décrit cette ville, cette cité, très intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il est dit que c'était un cube. C'est la forme d'un cube, un immense cube, égal en longueur, en largeur et en hauteur. Dites-moi, où est-ce qu'il est question d'un cube dans la Bible? Alors, la Nouvelle Jérusalem, mais quel est l'autre lieu? Le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est le seul lieu en cube dans la Bible. Donc la référence de cette cité qui est un cube, ça nous parle du Saint des Saints. Ça nous parle de la présence de Dieu qui va saturer toute chose. C'est ça, cette idée de cité, Jérusalem. Et donc, c'est dans 1 Roi 6:20 qu'on voit le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur, 20 coudées de hauteur. Et Salomon le couvrit d'or pur. Donc, voyez, la Nouvelle Jérusalem, ça nous parle que toute la cité devient le Saint des Saints. Et en fait, toute la création redevient le temple de Dieu cosmique. Donc la présence de Dieu n'est plus limitée à un sanctuaire, Dieu remplit tout l'espace. La connaissance de Dieu remplira, couvrira la terre comme les eaux couvrent les mers. C'est ce que les prophètes ont vu, c'est la finalité de l'histoire. Et nous, on peut participer à ce travail de l'histoire, à ce travail de rédemption, à ce travail de rachat. Et donc, voici la demeure des hommes, il entendait l'apôtre Jean, il habitera avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Donc voyez, il y avait 12 portes, elles n'étaient jamais fermées, et les nations, elles amènent leur gloire et leur honneur, ça parle de tout ce qui est beau et de Dieu dans chaque nation, qui va amener toute la beauté, parce que chaque nation, l'Iran, l'Irak, la Russie, la France, ce sont des nations qui sont appelées à la fin des temps à amener leur gloire et leur honneur parce qu'il y a des choses de Dieu, des belles marques de Dieu, des couleurs de Dieu. Et quand une nation est rachetée et délivrée, elle amène tout ça qui est beau. Et aujourd'hui, on est dans un mélange de beauté et de ténèbres. Mais ce feu purificateur qui vient, c'est pour manifester la beauté et ce qui est éternel, la marque éternelle de Dieu. Donc la résurrection du Christ, elle inaugure ce monde nouveau. Et ce monde restauré a été inauguré. Et son œuvre annonce le rétablissement de toutes choses. Voyez donc le monde nouveau de Dieu, il a commencé la résurrection de Jésus. Et tu fais partie de ce monde nouveau. Pas si tu réalises quand même. Tu fais partie de ce monde nouveau. La nouvelle naissance en toi, le nouvel homme en toi, éternel, il fait partie de cette nouvelle création qui a déjà commencé et qui va se poursuivre. Alors, vous voyez, ce dont on a besoin de la création, c'est pas qu'on l'abandonne. Il y en a qui pensent à l'évolution, mais il n'est pas question d'une évolution quelconque. Il est question de rédemption. Il est question de renouveau. Il est question de résurrection. Donc, je vous ramène au message que j'avais fait sur l'espérance, je ne vais pas y revenir, mais tout ce que tu fais aujourd'hui, eh bien, c'est une marque du royaume qui vient. Une famille qui vit la paix et l'harmonie, elle est une marque du royaume de Dieu, qui annonce le rétablissement de toutes choses. L'harmonie avec toi-même annonce l'harmonie de Dieu avec tout le cosmos. Donc les petites choses qui nous semblent petites sont grandes et elles annoncent les grandes. Alors voyez, Dieu est venu pour tout réconcilier. Jésus est venu pour tout réconcilier. Colossiens 1, tout est écrit par lui, de lui, pour lui. Il va tout réconcilier. Et donc il est question dans le texte qu'on a lu de la révélation des fils de Dieu. Le top départ de la transformation de la terre, c'est la révélation des fils. Ça parle de nous, de nos personnes. La finalité de notre salut, je rappelle, c'est pas nos âmes au ciel, mais c'est des corps. La rédemption de nos corps. La rédemption de nos corps. T'imagines un peu. Alors quand il y a des bobos, quand il y a tout ça, on dit Seigneur. Mais attends, le rivage, c'est quoi? C'est la rédemption totale. Alors aujourd'hui, la guérison, les signes que Jésus a fait et qu'on voit encore, sont des signes du royaume qui vient. C'est une tendance, c'est une marque. C'est loin d'être encore établi partout, bien évidemment. Mais c'est un signe du royaume de Dieu. Donc voyez, c'est en espérance que vous êtes sauvés. C'est assez bizarre pour des évangéliques, ça. Mais non, je suis sauvé. Non, mais la Bible dit, oui, t'es sauvé, mais c'est en espérance que t'es sauvé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as été sauvé, tu es en train d'être sauvé, parce que Dieu continue son œuvre en toi. Tu es en train d'être sauvé là. Et tu es en vue d'être, tu seras sauvé. Ça veut dire pleinement. Ça veut dire ressuscité. corps glorieux, etc. Et donc, on a été sauvé, on est sauvé et on sera sauvé. Ça, c'est la Bible qui le dit de façon très claire. Donc, quand on pense au retour de Christ, on pense parfois, tu sais, il vient d'une planète lointaine, de loin, là, il vient, paf, il arrive. Mais non, le terme retour, c'est avènement, c'est manifestation. C'est-à-dire, il va se manifester pleinement. C'est ça que ça veut dire. C'est pas l'OVNI qui descend. Il est là, en esprit, et il va se manifester pleinement. C'est ce qu'on appelle la parousie. Présence de Dieu révélée. Présence de Dieu manifestée. Donc, la finalité du salut, c'est la résurrection. Et donc, quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et là, on sait très bien que nos yeux spirituels le voient. Et déjà, il y a une transformation. Mais quand nos yeux physiques le verront, là, c'est la résurrection des corps. C'est le corps tout entier. C'est la matière. Donc, ne méprisons pas la matière. Ne méprisons pas la matière. La matière, c'est la matière que Dieu a faite. C'est quand même pas rien. Et elle est vouée, elle espère aussi. Donc, vous voyez, toute cette vision de la résurrection, tout ça, c'est pas pour nous dire, bon ben, on va attendre, tu vois. Non. Quand tu lis, par exemple, ce passage étonnant dans les Écritures, on voit dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15, il est décrit, si tu veux t'intéresser à ce qui va t'arriver bientôt, tu lis 1 Corinthiens 15, le corps ressuscité, glorieux, tout ça, semé corruptible, et il sera, et ressuscité incorruptible, etc. Donc tu vois ton avenir là. 1 Corinthiens, c'est ton avenir. Alors, quand tu lis tout ça, tu dis, bon, attends, moi je cherche pas la mort, hein, je veux vivre et tout ça. Mais c'est pas ça que ça nous dit, ces passages ne sont pas là pour nous dire, ne fais rien, attends. Non. La fin de ce chapitre de Corinthiens, étonnant, il nous dit, donc, un chapitre sur la résurrection. À la fin, il dit, ainsi mes frères, donc conclusion, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. C'est-à-dire, ton travail inspiré par Dieu, des actions inspirées par Dieu, elles passent l'éternité. Elles ne seront pas vaines, elles sont éternelles. Donc oui, si j'ai un avenir, si les nations ont un avenir, si la création a un avenir, cela fonde ma mission aujourd'hui sur la terre. Vous comprenez ça? Plus tu vois le rivage, plus tu es déterminé dans ton action quotidienne aujourd'hui. Et je termine, j'aimerais terminer par une parole et une vidéo. Et je vais vous donner des conseils pour vous voir. Dans Apocalypse 21, il est dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Ok, on en a parlé, mais regardez maintenant ce qui est dit. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc, cette cité, ça parle aussi de l'épouse qui s'est préparée comme l'époux. Et là, j'aimerais qu'on voit une vidéo. Et j'aimerais qu'on conclue, ça dure 4-5 minutes, mais j'aimerais vous demander à chacun, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que Dieu vous dit au travers de ce que vous allez voir? Quels sont les mots qui vous viennent? Ça parle de Jésus et de son épouse, ça parle de cette Jérusalem qui descend, préparée comme une épouse. Donc j'aimerais qu'on réfléchisse, ensuite on termine par ce partage, trouver un mot, une expression, peut-être un passage biblique qui vous touche quand vous verrez. Donc il s'agit de la finale des Jeux Olympiques de patinage artistique avec Cizeron et on peut y aller. Le son peut-être ne sera pas...
Ouais. Ah, si. C'est maintenant que s'achève la quête d'or olympique de Laurence Fournier-Baudry et Kim Cizeron moins d'un an après le début de leur partenariat. Le champion olympique en titre et la franco-canadienne ont déjà atteint le sommet. Mais il rêve de la plus grande décime après leur victoire sur la danse rythmique. Et parce qu'ils ont été les plus forts sur la danse rythmique depuis le début de la saison, pour aller battre ce soir les Américains et écrire l'histoire de la danse sur glace, des Jeux Olympiques et du sport, pour nous faire frissonner, pour nous faire rêver. Les voici sur la bande originale du film The Whale.
Allez,
allez.
arrêter. Voilà, quels sont les... Ça, c'est ta destinée, ça. Ça, c'est notre destinée. Quels sont les mots qui vous viennent, ou les passages bibliques, ou qu'est-ce qui touche? Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Bien sûr. Bien sûr. Mmh. Je t'aime d'un amour éternel. Vas-y, vas-y, mets les mots. Les mots, vas-y. Tache ni ride, oui. Ouverture, oui. La vie, le mouvement, l'être. Hein? Oui, indissociable. C'est ça, il se regarde, le regard, il ne se quitte pas des yeux.
J'étais impressionné par le fait que je regarde la femme, mais sans lui, elle fait la moitié qu'elle faisait. Et lui, je voyais un peu moins. Quand je le regarde, c'est la femme qui est mise en avant.
C'est ça, le cadre. Ouais. Amen. Donc ça, c'est la Jérusalem céleste qui est préparée. Et préparée, ça, c'est des années de préparation. Des années de préparation. Dieu prépare son épouse. D'accord ? Il prépare son épouse. Et j'ai juste ce petit texte que on termine, hein, qui illustre un peu ce qu'on vient de voir, je crois. Ô mon bien-aimé, toi qui viens sur la glace claire, ton pas est sûr et ton regard m'appelle. Tu tends ta main et mon âme répond, car je suis à toi comme l'épouse au jour de l'alliance. Nous avançons ensemble, sans heurts, sans crainte, deux souffles accordés en un seul mouvement. Ta force guide mes élans silencieux et ta présence devient mon équilibre. Tu me conduis avec douceur, sans contraindre, comme le berger mène vers les eaux paisibles. Et je te suis libre et confiante, car en toi je trouve ma sécurité. Vois mon cœur comme nos pas s'accordent sans parole, comme deux colombes guidées par une seule brise. Nulle hésitation ne trouble notre voie, car l'amour a tracé nos lignes avant même nos élans. Vois nos courants ensemble, joyeux et légers, nos pas écrivent une harmonie invisible, chaque geste est juste, chaque ligne est pure, comme si l'amour lui-même dessinait nos chemins. Tu me saisis et je m'élève, porté au-delà de mes propres forces. Tes bras sont comme les colonnes de grâce, et je repose en toi sans trembler. Ô danse de feu et de tendresse mêlée, où nos corps parle un langage ancien. Nous tournoyons unis dans un même cercle comme deux astres liés par une même lumière. Tu es celle qui se confie et s'abandonne, épouse portée au creux d'une force douce. Et mes bras le te soulèvent comme l'encens monte vers les hauteurs où la peur n'a point de demeure. Nous tournoyons, ivres d'une paix profonde, cercle inscrit dans l'éternité d'un instant. Ton regard est ma certitude, ta main, mon alliance scellée dans la grâce. Ta main ne me quitte point, ton regard veille sur chacun de mes pas. Et même dans l'élan le plus audacieux, ta fidélité demeure mon ancrage. Je suis l'épouse qui se laisse porter, élevée sans peur, dans le souffle de ton amour. Et toi, mon bien-aimé, tu es celui qui soutient, celui qui élève sans jamais laisser tomber. Ensemble, nous courons, sans effort, sans heurts, comme des ruisseaux unis vers une mer invisible. Nos gestes sont justes, nos élans précis, nos âmes sont alignées dans un même champ. Ainsi nous dansons dans une parfaite cohésion, alignés dans un mystère que nul ne peut rompre. Beauté, harmonie, précision sans faille, reflet d'une alliance éternelle. Ainsi nous dansons, libres et assurés, sous le regard silencieux des cieux émerveillés, et la glace, témoin de notre alliance, devient l'autel où se célèbre notre unité. Et la glace sous nos pieds devient sanctuaire où se célèbre dans le silence et la grâce l'union du Christ et de son Église dans une danse qui ne finira jamais. Voilà, mes amis, la destinée de l'Église et de chacun de nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne de voir le rivage. De voir le rivage. Amen.